Et le journal est présenté par Anne-Laure Chouin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. Les députés britanniques s'apprêtent à voter ce soir contre l'idée d'un Brexit sans accord, après avoir voté hier contre l'accord de Brexit. Une situation ubuesque, mais l'idée d'une troisième voie commence à émerger, une sorte de plan alternatif. Nous irons à Bruxelles et à Londres avec Antoine Gignot. Nous irons à Alger également, où lycéens et professeurs sont descendus dans la rue par milliers pour crier leur haine du pouvoir en place, nous dira Wassila Guitoun. Et puis l'ONU alerte dans un rapport, un quart des morts prématurés et des malades dans le monde sont dus aux pollutions et aux atteintes à l'environnement. En France, la fin officielle du grand débat approche. Les députés attendent de savoir comment seront retranscrites les inquiétudes qui ont émergé dans leur circonscription, alors que l'Observatoire Société et Consommation rendait public ce matin une enquête sur le profil des gilets jaunes et leur comportement de consommateurs. Enfin, le marché du livre en France, comment s'est-il transformé? Nous verrons cela avec Cécile de Kervas-Douai à la fin de ce journal. Pas d'accord ou pas de Brexit dans l'immédiat. Après avoir à nouveau rejeté l'accord de Brexit proposé par l'Union européenne et Theresa May hier, les députés britanniques n'ont en effet plus que ces deux options. Ils devront choisir ce soir par un nouveau vote s'ils souhaitent quitter l'Europe sans accord. Dans le cas contraire, cela signifierait que le Brexit serait au minimum retardé. Là encore, un vote sur la question est prévu demain. Le vote de ce soir fait peu de mystère. A priori, les députés devraient repousser l'idée d'un no deal. Alors, quelle voie emprunter? Ce qui apparaît cet après-midi, c'est l'émergence, Antoine Gignot, d'une sorte de plan alternatif.
Même si plusieurs ministres continuent de plaider pour une sortie radicale de l'Union européenne, pour faire peur à Bruxelles, pour, disent-ils, essayer d'arracher des concessions de dernière minute, la grande majorité des parlementaires et des hommes politiques appellent à rejeter ce scénario de no deal. David Cameron, l'ancien Premier ministre, responsable de l'organisation du référendum qui a conduit au Brexit, sort même pour l'occasion de sa réserve. Une sortie sans accord, dit-il, serait catastrophique. Il demande à Theresa May de chercher des solutions alternatives. Ce plan B est d'ailleurs peut-être en train de se dessiner cet après-midi. Philippe Hammond, le ministre de l'économie, demande aux députés de trouver un terrain d'entente, peut-être un Brexit plus doux que prévu dans le style du partenariat entre Bruxelles et la Norvège, avec la possibilité de rester dans une union douanière, comme le propose Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes. Philippe Hammond, qui au milieu de la tempête, trouve tout de même le temps de faire une blague en annonçant le déblocage de fonds budgétaires pour financer un super ordinateur pour l'université d'Édimbourg. Il lance, c'est un ordinateur qui pourrait même permettre de trouver une solution au Brexit et à la frontière irlandaise.
Antoine Gignot à Londres. À Bruxelles, l'Union européenne reste sur sa ligne, c'est-à-dire pas de renégociation de l'accord de divorce. La solution, c'est à Londres de la trouver, mais l'UE ne souhaite pas non plus un Brexit désordonné, a déclaré notamment Angela Merkel. Que les Anglais donnent une réponse claire, c'est tout ce que demande en résumé le négociateur européen chargé du Brexit, Michel Barnier. Il s'exprimait ce matin devant le Parlement européen à Strasbourg.
Le Royaume-Uni, c'est sa responsabilité, doit nous dire ce qu'il veut pour notre relation future. Quel est son choix, la ligne claire qui doit être la sienne? Voilà la question qui se pose maintenant, à laquelle nous attendons une réponse. Et c'est cette question-là qui se pose avant même celle d'une décision sur une éventuelle extension. Prolonger cette négociation, pourquoi faire? Puisque la négociation sur l'article 50, elle est terminée. Nous avons le traité, il est là. Je voudrais redire que nous sommes dans un moment très grave, puisque le risque du no deal n'a jamais été aussi élevé. Cela veut dire le risque d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne de manière désordonnée. Et je recommande de ne pas sous-estimer ce risque.
Michel Barnier. En Algérie, les manifestants continuent de descendre par milliers dans les rues, malgré l'annonce lundi du renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. Ce renoncement, beaucoup le voient comme une continuité du pouvoir en place, un pouvoir qui a reporté les élections, mais sans préciser à quelle date elles auront finalement lieu. Ce mercredi donc, ce sont les enseignants et les élèves du secondaire qui manifestaient à Alger, notamment, alors que dans certaines régions du pays, la grève générale paralyse toujours l'activité. Nous sommes le pouvoir, vous êtes le désespoir. Voilà ce qu'on pouvait lire et entendre dans les rues du centre-ville de la capitale algérienne. Le reportage sur place de Wassila Guitoun.
Des milliers de blouses blanches crient leur haine du pouvoir en place. Les blouses blanches, ce sont les tenues portées habituellement par les enseignants en Algérie. Enseignants qui ont donc délaissé leur salle de classe le temps d'une journée. Voleurs, vous avez pillé le pays. Voilà ce que crie Selma, enseignante de français dans un quartier populaire de Beb El Oued près d'Alger.
Parce que le système est pourri et il nous pourrit l'existence. Donc nous en avons marre. Nous, enseignants, nous sommes aussi des citoyens. Bouteflika ne dit plus rien. Les ministres font ce qu'ils veulent. Leurs enfants sont à l'étranger. Et ce sont les enfants du peuple qui payent. Et nous disons, basta, il y en a marre.
À ses côtés, une autre prof de français, Karina, a écrit une phrase de Victor Hugo sur son panneau qu'elle prend en photo fièrement.
Alors, la solidarité des hommes est le corollaire invincible de la solidarité des univers. Donc un an vers un univers meilleur. L'injustice, c'est d'abord cette jeunesse-là, à laquelle plutôt on fait barrage. C'est-à-dire on ne veut pas faire passer le flambeau à cette jeunesse. Et cette jeunesse, c'est un génie. Si on la laisse parler, si on la laisse créer, si on la laisse vibrer, respirer. Si nous, en tant que génération, nous ne nous mobilisons pas aujourd'hui, qui va se mobiliser plus tard? Donc on n'a pas le droit de se taire.
Les deux femmes seront à nouveau place au Dain après-demain pour la désormais traditionnelle manifestation du vendredi.
Un reportage de Wassila Guitoun. La fin de l'État islamique est proche. C'est ce qu'assurent les forces démocratiques syriennes, les FDS, qui, avec le soutien de Washington, poursuivent le dernier assaut contre le dernier réduit des djihadistes en Syrie, dans la poche de Baghouz. 3000 de ces djihadistes se sont rendus et la chute de l'enclave apparaît désormais imminente. Aurélien Colli, vous êtes l'envoyé spécial de France Culture dans cette zone. Vous avez pu voir et parler avec certains de ces djihadistes qui ont abandonné les combats après des semaines de siège.
Oui, c'était un groupe d'une cinquantaine d'hommes, tous combattants de l'État islamique. Le plus frappant, c'était leur état physique après des semaines de siège dans cette enclave où ils n'avaient plus de nourriture, où ils ont été harcelés par des frappes aériennes de la coalition. De véritables gueules cassées, ils étaient sales, hagards, amaigris, tous étaient blessés. Exceptionnellement, j'ai pu parler à certains d'entre eux. Il y avait par exemple Zouer, un Marocain de 20 ans qui a rejoint Daesh il y a 2 ans. Une tête de gamin avec des pansements au mollet et à l'estomac. Mais un jeune homme ne regrettant pas son engagement.
Je suis venu pour le djihad parce qu'on a entendu qu'il y avait des attaques contre l'État islamique. Moi, j'étais là pour le défendre. Ici, j'ai vécu avec des gens beaucoup mieux qu'au Maroc.
À quelques mètres, assis en tailleur, main sur la tête, une autre tête de gamin, avec cette fois un bras ensanglanté. Lui s'appelait Mohamed, un Syrien de 25 ans.
Je travaillais comme mécanicien pour l'État islamique depuis 3 ans. C'est mon frère qui en faisait partie. Il est toujours à l'intérieur. Hier, j'ai été blessé et j'ai décidé de sortir. C'est très mauvais là-bas. Les gens veulent partir.
Alors le soldat kurde qui interrogeait Mohamed ne croyait pas du tout à la version du mécanicien de Daesh. Il a confirmé en revanche que les djihadistes étaient à bout, qu'ils se rendaient. Et puis autre djihadiste avec qui j'ai pu échanger brièvement quelques mots, un Tunisien d'une quarantaine d'années, longue barbe et regard complètement vide, blessé à la tête, à l'épaule, avec dans la main la poche de sang d'une perfusion de fortune.
Je suis venu il y a 5 ans par la Turquie pour appliquer la loi de Dieu. J'ai été blessé. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup sont sortis, mais il en reste encore.
Alors quoi qu'on pense de l'État islamique, difficile de rester insensible face à ces hommes en lambeaux qui étaient interrogés par les forces kurdes, puis transférés un peu plus loin où il y avait là des forces spéciales américaines. Cette unité prenait les empreintes et des photos de chaque homme à la recherche de djihadistes européens ou américains et d'éventuels commandants de Daesh. J'ai demandé où ces hommes seraient transférés, mais là-dessus je n'ai pas eu de réponse.
Merci beaucoup Aurélien Colli. Un quart des morts prématurées et des maladies dans le monde sont liées aux pollutions et aux atteintes à l'environnement. C'est un rapport de l'ONU qui dresse ce constat accablant. 250 scientifiques de 70 pays ont travaillé sur ce document pendant 6 ans et ils ont noté, entre autres facteurs, qu'au nord, surconsommation, pollution et gaspillage alimentaire précipite au sud famine, pauvreté et maladie. Un rapport qui sera l'occasion du sommet pour le climat qui se déroule à Nairobi, au Kenya. Sur place, les précisions de Charlotte Simonard.
Une épidémie mondiale, c'est en ces termes que les scientifiques qualifient les décès et maladies liés à la dégradation de l'environnement. La pollution de l'air cause à elle seule entre 6 et 7 millions de morts chaque année. Mais il y a aussi l'eau potable contaminée par les produits chimiques et la destruction des écosystèmes, due notamment à la déforestation et l'agriculture intensive. Résultat, rien qu'en 2015, 9 millions de personnes sont décédées suite aux pollutions environnementales. La situation situation n'est pas irrémédiable pour autant, affirment les scientifiques, qui appellent néanmoins à des actions urgentes et d'une ampleur sans précédent. Un changement des modes de vie est inévitable, ainsi qu'une réorganisation de l'économie mondiale vers une production plus durable. Car le fossé entre les pays riches et les pays pauvres se creuse, la surconsommation au nord précipite pauvreté et maladie au sud, souligne le rapport. Un rapport déjà mal accueilli par certains pays, États-Unis en tête, de mauvais augure pour un éventuel futur accord mondial en la matière.
Charlotte Simonard, et c'est dans ce contexte que la jeunesse du monde entier est appelée à défiler vendredi pour réclamer des actions fortes pour le climat, un mouvement inspiré par l'adolescente Greta Thunberg. Depuis plus de 4 mois que dure leur mouvement, plusieurs études sur le thème « Qui sont les gilets jaunes ?» ont eu le temps d'être menées. Et la dernière en date propose notamment de les regarder sous un angle intéressant, leur mode de consommation. L'OPSOCO, l'Observatoire Société et Consommation, a recueilli des données issues d'une enquête en ligne auprès de 4000 personnes où il apparaît que 46% des Français se qualifient de gilets jaunes et 22% ont pris part au mouvement d'une façon ou d'une autre. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Ce qui ressort de cette étude, c'est, on s'en doutait, des caractéristiques des gilets jaunes très hétérogènes.
Oui, avec, pour commencer, un constat qui montre qu'il n'y a pas de profil type du gilet jaune qui correspondrait uniquement à des personnes de classe moyenne vivant dans des petites villes ou en zone rurale, mais une population hétérogène dont les revendications portent principalement sur une place plus grande à des à la démocratie et aux citoyens, à la démocratie directe, mais surtout à la justice fiscale et au pouvoir d'achat, notamment avec la hausse de la fiscalité sur les carburants ces dernières années, un pouvoir d'achat qui, selon l'INSEE et l'OPSOCO, n'aurait pas forcément baissé. Philippe Moiti, directeur de l'OPSOCO et professeur d'économie à l'université Paris-Rue Diderot.
Je pense que ce mouvement exprime une forme de malaise collectif qui les dépasse et que je suis tenté d'analyser comme étant symptomatique d'une crise de la modernité occidentale, en quelque sorte. Une société d'hyperconsommation, où la consommation règne à l'échelle de l'organisation de la société, mais également surtout de nos vies individuelles, donc qui crée un vouloir d'achat qui est sans limite, alors que le pouvoir d'achat lui progresse extrêmement lentement. Donc comment on gère cette contradiction entre une expertise, une puissance dans la capacité à générer du désir et une incapacité à donner les moyens pour le satisfaire, c'est nécessairement à la clé de la frustration et de la colère que l'on crée.
Enfin, à l'heure de la conclusion sur le grand débat national, l'enquête montre aussi une certaine dépolitisation du mouvement, puisque 40% des personnes interrogées se disent ni de gauche ni de droite.
Merci Hakim Kasmi. Et vous le disiez, c'est pour répondre aux inquiétudes de ces gilets jaunes que le grand débat a été mené. Un grand débat dont la fin officielle approche, ce sera vendredi. Désormais, la question se pose de savoir comment exploiter les très nombreuses propositions, comment faire une synthèse et surtout que décider finalement. L'exécutif se donne jusqu'à la mi-avril pour trancher avec des choix qui s'annoncent difficiles selon le Premier ministre. Cet après-midi, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a estimé de son côté que ce serait une erreur de se hâter pour prendre les décisions. Mais dans les circonscriptions, les attentes sont grandes, surtout pour les citoyens qui ont participé. Les députés sont donc impatients de savoir comment le gouvernement va revenir vers les Français après ce grand exercice participatif. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Vous avez rencontré plusieurs de ces députés cet après-midi.
Dans l'opposition, évidemment, tous les gages de prudence affichés par l'exécutif sont démontés. Exemple avec le député Les Républicains du Haut-Rhin, Raphaël Schellenberger.
On sent que la date, elle est repoussée, repoussée, repoussée. On voit que posait le 15 mars à l'Assemblée nationale. On va prolonger ça encore 2-3 semaines de plus. Il serait temps maintenant que l'exécutif réfléchisse à la forme que ça va prendre cette restitution, parce que si c'est juste un changement institutionnel, et ça les gens nous le disent en circonscription, ils ne veulent pas juste un changement institutionnel. Et malheureusement, c'est ce qui semble se dessiner.
Philippe Vigier, le député d'Eure-et-Loir du groupe Liberté et Territoires, député pourtant constructif, embraye.
Il y a beaucoup de questions qui viennent autour du pouvoir d'achat, pour les retraités, pour les travailleurs les plus modestes. Et ça, ça revient de façon permanente. Il faut, me semble-t-il, dès la fin avril, début mai, un moyen d'apporter du pouvoir d'achat, comme il y a une partie de la réponse qui avait été apportée au mois de novembre.
Alors il y aura dans l'hémicycle un débat sans vote le 9 avril sur toutes ces questions, toutes ces réflexions. À La République En Marche, on estime effectivement qu'il peut y avoir des réponses rapides, mais qu'il ne faut pas rêver. Une réforme de la fiscalité, par exemple, eh bien ça prendrait plusieurs mois. Au final, ce qui compte pour Delphine Bagary, élue dans la première circonscription rurale des Alpes de Haute-Provence, c'est de conserver l'esprit de ce grand débat national.
Que les gens puissent d'abord se réinvestir, faire confiance au corps intermédiaire et aller vers des adhésions. Et moi, j'attends qu'en fait, les gens puissent reprendre goût à la chose publique et aient envie de continuer.
Alors c'est évidemment un idéal, on en est encore loin, la méfiance à l'égard du gouvernement est toujours très forte chez les Gilets jaunes. L'un des garants du grand débat estimait toutefois cet après-midi que ce grand débat a contribué à faire émerger un nouvel espace public.
Anne Fauquemberg, merci beaucoup. La justice a tranché 15 ans après le drame qui avait vu une partie du terminal 2 de l'aéroport de Roissy s'effondrer, tuant 4 personnes. Le groupe Aéroport de Paris a été jugé coupable d'homicide et de blessures involontaires et condamné à 225 000 euros d'amende. Les Français et la lecture. À 2 jours de l'ouverture du Salon du Livre, le Centre National du Livre a rendu public ce matin son 3e baromètre sur le sujet conduit par Ipsos, d'où il ressort que les Français lisent toujours autant. 92% d'entre eux déclarent avoir lu au moins un livre au cours de l'année écoulée. Un livre au sens large, hein, papier ou numérique, roman, essai, dictionnaire ou livre de cuisine. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Ce que révèle aussi ce baromètre, c'est que le marché du livre doit urgentement se réinventer.
Oui, parce que si le profil des grands lecteurs ne change pas, ce sont toujours des lectrices diplômées de plus de 52 ans. Ce que montre ce baromètre, c'est que les 15-24 ans lisent de plus en plus, grâce notamment à l'effet Harry Potter de J.K. Rowling ou Game of Thrones de George R.R. Martin. Ils consomment donc surtout des livres de science-fiction et de fantasy, et bien sûr, comme le montre aussi le succès de la Japan Expo, des mangas, des BD, des comics. Et ils aimeraient même en lire plus, disent-ils à Ipsos, si seulement ils trouvaient chez les éditeurs français des livres qui leur plaisent. Pourtant, un gros travail a été fait pour valoriser le genre young adult. Comprenez, jeune adulte, assure Vincent Monadet, c'est le directeur du Centre National du Livre.
On a été en retard. Aujourd'hui, tous les éditeurs produisent du young adult. Les libraires ont même créé des rayons young adult. Donc on a pu ce retard par rapport aux États-Unis et à l'Angleterre. En revanche, les jeunes n'ont pas encore perçu la masse de l'offre qui leur était destinée. L'enjeu, c'est de remettre la lecture au cœur des loisirs des Français. Elle perd des points par rapport aux nouveaux entrants que sont le jeu vidéo, les séries, les réseaux sociaux, Internet, voilà.
Reste la question de l'argent souvent invoqué hein, comme frein à la lecture dans ce baromètre et qui explique aussi l'essor du livre d'occasion qui représente aujourd'hui 15% du marché du livre. Quant au manque de temps, invoqué également, il explique l'évolution du livre numérique, explique Armel Vincent Gérard, qui est en charge de ce baromètre pour Ipsos.
Je pense que les Français restent très attachés au livre au format papier. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde les 15-24 ans, ils sont quand même plus de la moitié à déclarer lire des livres au format numérique. Je me souviens quand on a fait la première étude sur le livre numérique, je crois que c'était en 2009, on avait 5% des Français qui étaient lecteurs de livres numériques. Là, aujourd'hui, on a quand même un quart des Français, 24% des Français ont lu au moins un livre numérique au cours des 12 derniers mois. Et dans les précédentes études qu'on avait faites, notamment auprès des 15-24 ans, le premier support qui ressortait, c'était le smartphone.
Et pour cette raison, le CNL se félicite de la loi de 2012 qui impose aux livres numériques comme au papier un prix unique.
Cécile de Kervas-Doué. Après les révélations sur la Ligue du LOL, les témoignages et les enquêtes affluent sur les phénomènes de harcèlement sexiste et d'agression sexuelle dans plusieurs médias français. Raison pour laquelle une vingtaine de groupes de médias ont signé une charte de bonne conduite afin de lutter contre ce phénomène. Un phénomène a priori largement répandu puisque en France, 50% des journalistes déclarent avoir connu une forme de harcèlement et 10% d'étudiantes en journalisme disent avoir été victimes d'agressions sexuelles. Bonsoir, Soazic Bourg.
Bonsoir.
Une charte qui entend aussi dénoncer l'hypocrisie ambiante dans les médias.
Et oui, derrière les beaux discours de diversité et de respect, il y a ces phrases. T'es bonne toi, t'es nouvelle? T'aimes ça les gros micros? Je sais pourquoi ta voix plaît tant à l'antenne, c'est ton côté cul et une règle tacite. La loi du silence qu'il serait grand temps de briser, d'après Mercedes Herrera, présidente exécutive d'Havas.
On accepte les blagues, on dit mais il n'y a pas de quoi faire une histoire. Et finalement, il n'y a que des histoires. C'est pas admissible et faut dire que c'est pas admissible. Les femmes aujourd'hui sont victimes parce qu'elles n'ont pas le pouvoir. Donc donnant-leur le pouvoir, c'est la chose la plus simple pour être moins victime.
Autre moyen, renverser la vapeur en nommant des référents dans l'entreprise hors syndicat qui puissent mettre en avant ces questions et libérer enfin la parole des femmes. Françoise Laborde, la présidente de l'association pour les femmes dans les médias.
Quand on est une fille et qu'on a un problème, on n'a pas envie forcément que le garçon soit condamné, renvoyé, chassé, victime de je sais pas quoi. On veut juste que ça s'arrête. Et on veut pas non plus passer pour la fille chiante qui prend mal tout ce qu'on lui dit. Donc du coup, il y a une sorte de silence absolu. Si à l'intérieur d'une maison, à tous les niveaux de la hiérarchie, on met en place des structures pour que justement on se pose ce genre de questions, on inverse la charge de la preuve d'une certaine façon. Et on n'est pas en train de dire « venez nous voir si vous avez un problème », mais plutôt « est-ce que par hasard vous auriez déjà eu un problème ?»
En revanche, si ces entreprises n'appliquent pas la charte, pas de moyen de le vérifier, pas de sanctions non plus. Mais Yasmina Jaffar, fondatrice de laruchemedia.com, veut croire, elle, que l'époque a changé.
C'était pas juste une signature comme ça, l'air de rien, parce qu'il y a eu le MeToo l'année dernière. Donc on peut plus faire comme si ça n'avait pas existé. Et nous, femmes, on doit entendre ces paroles-là, prendre un peu tout le monde par la main et sortir des injonctions. Vous êtes juste une femme. Non, je suis une femme au même titre que vous êtes un homme. Ça devient juste de l'anthropologie, en fait.
Et d'autres entreprises devraient normalement adhérer à cette charte. Un point d'étape aura lieu au moins tous les ans.
Soazigbourg, merci beaucoup. Un mot rapide du temps de demain. Jeudi, la journée sera perturbée avec du vent toujours, de la pluie et de la neige, sauf en Méditerranée. Les températures entre 2 et 9 degrés le matin, entre 9 et 15 degrés l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Brault.